Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
Les infos, tout de suite avec Laurent Sègre.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Mais jusqu'où ira Poutine ? Hier, les Russes ont bombardé Kiev au moment même où le patron des Nations Unies était en visite dans la capitale ukrainienne. Mission de paix sous les bombes. Sa sécurité n'a pas été menacée, mais l'attaque a fait au moins un mort. Elle est dénoncée ce midi par la porte-parole du Quai d'Orsay, Anne-Claire Legendre.
Cette frappe, nous la condamnons très vivement. Elle est absolument choquante et elle l'est évidemment tout particulièrement au moment où le secrétaire général des Nations Unies était à Kiev et à Moscou quelques heures auparavant pour porter l'exigence humanitaire qui est la nôtre, qui est celle de 141 membres des Nations Unies qui ont voté pour demander un cessez-le-feu, pour demander le respect du droit humanitaire international. Donc cette frappe, c'est le signe du mépris de la Russie pour le droit humanitaire international.
Les Russes disent avoir utilisé des armes de haute précision contre une entreprise spatiale. Conséquence notamment de la guerre en Ukraine, les prix flambent, presque 5% d'inflation au mois d'avril. L'alimentaire est particulièrement touché. Dernier exemple en date, la bière. Le syndicat des brasseurs redoute de devoir nous faire trinquer. Nicolas Ropert s'est rendu dans une brasserie d'Alfortville, près de Paris.
Au milieu de ses cuves de brassage, Arnaud Rostin, ce fondateur d'une bière artisanale dans le Val-de-Marne, a vu ses coûts de production exploser.
La bouteille en verre, elle a pris 37% depuis que j'ai commencé. Avant, j'achetais mes capsules 75 euros, il est passé à 109.
Le coût du malt, indispensable à la production de bière, a lui aussi grimpé à cause de la guerre en Ukraine. Conséquence, ce brasseur va devoir augmenter ses prix dans les semaines qui viennent.
Moi, je vends mes bouteilles 2,50 euros. Là, je suis en train de recalculer justement en ce moment combien je vais devoir les vendre et je pense que je vais être obligé de les vendre au moins 2,80 euros, si ce n'est pas 3 euros, pour pouvoir récupérer la marge que je perds. Quoi.
Mais les fabricants de bière qui ont des contrats avec des distributeurs ne peuvent pas augmenter leurs tarifs comme ils veulent. Et cela inquiète Jean-Barthélemy Chancel à la tête de la brasserie La Parisienne.
On a fait le choix pour l'instant de ne pas répercuter les hausses de prix sur nos clients, dans l'espoir que ce soit passager. Il y a même des clients aujourd'hui, en fait, qu'on va arrêter de servir. En fait, on développe de nouveaux clients et deux mois après, on leur dit, mes chers amis, on ne peut pas vous servir parce que c'est la guerre en Ukraine.
Les brasseurs veulent notamment faire pression sur la grande distribution pour qu'elle autorise plus facilement des hausses de prix.
Socialistes et mélenchonistes de nouveau autour de la table des négociations pour les élections législatives. Rapprochement en vue sur le SMIC à 1400 euros et la retraite à 60 euros. Côté écologiste, eh bien, le numéro 1 du parti, Julien Bayou, pense qu'un accord est en vue avec les Insoumis. Un bus électrique en feu ce matin en plein Paris, près de la bibliothèque François Mitterrand. Les voyageurs ont eu le temps de sortir, il n'y a aucun blessé. C'est la deuxième fois ce mois-ci qu'un bus électrique de la RATP prend feu. Les causes sont pour l'instant totalement inconnues. Emmanuel Macron est aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées. Le chef de l'État se rend sur la tombe de sa grand-mère, une femme avec laquelle il était particulièrement lié. Les courses maintenant et les bons tuyaux d'Estelle. Le quintet, à quel endroit aujourd'hui, Estelle ?
Eh bien, Laurent, ce sera sur l'hippodrome de Rouen dans la discipline du trot sur la distance des 2850 mètres avec deux poteaux de départ. À 20h15, il ne sont plus que 15 trotteurs à prendre part à la compétition puisque le 4 Cassius du Giffre a été déclaré non partant. Donc, évidemment, on ne misera pas sur lui.
Voilà, votre conseil du jour, donc.
Eh bien, mon conseil, enfin, c'est pas que le mien, hein, c'est voilà, le conseil de toute la rédaction d'RMC, c'est le 12, Fabulous Dream. Pour une place dans les trois premiers, il possède la qualité nécessaire pour remporter cette épreuve, mais il devra rester au trot car il se met souvent au galop et finit donc régulièrement disqualifié. On tente le coup, on n'est pas sûr, mais on tente le coup, on est vendredi, c'est la fin de semaine, on y va, on se lâche.
RMC, c'était les tuyaux d'Estelle.
Allez, on verra tout ça à 20h15 sur RMC Découverte, les courses en direct. Sur RMC, il est midi 4, Estelle Midi, c'est maintenant.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story Canal 23. C'est la dernière émission de la semaine, on va bien en profiter avec vous bien sûr au 32-16 sur l'application RMC, rubrique Direct Studio et puis avec tous les chroniqueurs autour de la table. Et tout d'abord, Martin Bourdin, salut Martin.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Ça va bien?
Très bien, en grande forme.
Vous allez nous lire tous les messages des spectateurs et des auditeurs aujourd'hui.
On va essayer.
J'espère bien.
Il y aura du boulot, je pense.
Laurent Dandrieux, chef des services culture de Valeurs Actuelles. Bonjour Laurent.
Bonjour Estelle, vous revenez en pleine forme?
Oui. Ça va mieux. Bon, j'étais encore un peu fatiguée hier, mais là je suis en pleine forme.
Super.
C'est dommage, on est vendredi. Mais enfin,
c'est bien comme... pour le week-end.
Ouais, voilà, exact. C'est ça, je suis en forme sur le week-end, c'est super. Catherine Rambert, journaliste et écrivain, est avec nous. Ça va, Catherine?
Hello Estelle, ça va très bien. Enfin, je suis un peu déçue d'apprendre qu'il n'y a plus de capsules pour les bières, mais enfin bon, tant pis, on va se débrouiller autrement.
Ne vous inquiétez pas. On va trouver une solution. Et puis nous avons notre économiste préféré, Pierre Rondeau. Ça va, Pierre?
J'espère qu'on va trouver une solution. Parce que
mais ça ne va pas fort en ce moment. Nous allons beaucoup en parler.
Mais ça va sinon.
Dans cette émission, au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, une croissance nulle au premier trimestre. La consommation et le moral des Français en berne. Le pire est-il devant nous? Êtes-vous inquiet pour l'avenir? On attend bien sûr vos appels au 32-16. La société Amazon qui affiche sa plus faible croissance de vente depuis 20 ans. Bonne ou mauvaise nouvelle? À 13h, les premières manifs du deuxième quinquennat Macron ce dimanche sur le thème central des retraites. Le président doit-il déjà envisager de faire marche arrière ou même de ne rien faire? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. Dites-nous si vous allez manifester justement ce 1er mai. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, une ville allemande qui autorise la pratique du sein nu à la piscine. Faut-il faire la même chose en France? On attend vos appels au 32-16. Il y aura à 14h30 les immanquables de Martin Bourdin. Toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, avec notamment 6 Français sur 10 qui regrettent d'avoir changé de travail durant la pandémie. Et puis on terminera avec le quiz. Un très beau séjour à gagner, Martin.
Un séjour dans un centre VVF pour 4 personnes. Une semaine pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Il y a plus de 100 destinations partout en France qui vont s'offrir à vous si vous remportez ce cadeau. Pour jouer et tenter de remporter ce cadeau, pour vous inscrire, vous appelez le 3216, vous appuyez sur la touche 4 ou alors vous envoyez quiz par SMS au 7-32-16. Quiz au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 7, vous êtes sur RMC et on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est ce chiffre tombé ce matin. La croissance française a été nulle, 0% au premier trimestre. Une mauvaise nouvelle, d'autant plus que la consommation des ménages a baissé le mois dernier et que le moral des Français est en berne. Rien ne va plus, Martin Bourdin.
Et pourtant, la reprise économique l'année dernière nous avait permis de retrouver un peu le sourire. Mais depuis... rien ne va plus, patatras, la vague Omicron très forte en janvier, augmentation des prix de l'énergie, guerre en Ukraine fin février, tout cela a anéanti la croissance française. C'est moins que les prévisions de la Banque de France, moins aussi que les prévisions de l'INSEE, un zéro pointé qui s'explique notamment par la baisse de la consommation des ménages, la consommation alimentaire notamment dégringole, celle de l'énergie évidemment aussi. La guerre en Ukraine a fortement contraint nos dépenses, l'inflation continue d'accélérer, les prix ont augmenté de 4,8% sur un an. Ça, là aussi, le chiffre est tombé ce matin. Tous nos produits du quotidien sont plus chers, la viande, les pâtes, les céréales, les matières premières, la bière aussi, on en a parlé dans le journal et je tenais à le citer, tout augmente. Et beaucoup de professionnels nous expliquent qu'il va falloir s'habituer à ces hausses de prix, que ça va continuer. Tout ça, et bien évidemment, ça joue sur notre morale. Un indicateur de l'INSEE montre que notre morale est aussi bas actuellement quasiment que fin 2018, quand le mouvement des Gilets jaunes avait dégénéré, ou qu'en 2020, quand on était confiné. Dans un sondage publié il y a quelques semaines, 36% des Français disaient ne pas réussir à boucler les fins de mois, 37% n'arrivaient pas à vivre décemment.
Le pire est-il devant nous? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir? Je vais commencer avec vous, Pierre Rondeau.
Ah non, je vais pas vous le cacher, je suis très inquiet. Oui, je suis très inquiet parce que, alors déjà, on parle d'une inflation en France de 4,8%. Rappelons que la moyenne de la zone euro, c'est 7,5. Oui. Rappelons qu'en France, on peut se plaindre et s'inquiéter de l'avenir. Le gouvernement, on peut lui en tenir rigueur, a mis en place des mesures pour juguler, contrôler cette inflation, qui dans tous les pays européens décolle. Elle est à 7% de moyenne dans toute la zone euro.
5, c'est énorme aussi. Hein.
Mais je dis pas le contraire, 4,8 c'est énorme aussi. Mais et le problème, c'est que ces mesures prises par le gouvernement ne sont pas faites pour durer longtemps. Donc d'ici quelques mois, elles vont s'arrêter, elles vont se tarir. Les mesures pour le gaz, pour le pétrole, pour la consommation, à la rentrée prochaine, ça va s'arrêter. Et donc on va subir cette augmentation, cette inflation, qui inflation est accélérée et soutenue et pérennisée par à la fois le conflit en Ukraine, par les crises climatiques, environnementales, les crises diplomatiques, la crise pandémique. Je me suis réveillé ce matin donc en apprenant ces informations sur l'inflation et en plus on apprend qu'il y a un premier cas de grippe aviaire en Chine.
Transmis à l'humain.
Transmis à l'humain.
Oui, exactement. Enfin,
Ne vous inquiétez
pas plus que...
Voilà, non, c'est pour ça que je vais pas vouloir broyer du noir, mais on peut s'inquiéter. Et si je prends uniquement le cas de l'inflation ou de la croissance, parce que la croissance c'est pareil, la croissance 0% actuellement. J'avais lu des rapports qui dataient d'il y a un an de l'OFCE, mais aussi de la Banque française, la Banque de France, qui disaient que pour rattraper la perte due au premier confinement entre 2020 et 2021, on était à moins 8% de croissance, il fallait espérer une croissance qu'on prend entre 4 et 8% d'ici 2022-2023. 4 et 8%.
Mais on est à zéro.
Annonce zéro. Donc, voilà, c'est pas uniquement propre à la France, c'est mondial. C'est un phénomène mondial, diplomatique, environnemental, climatique, sanitaire, économique, monétaire. On aura beau augmenter les salaires, si on augmente les salaires,
oui, c'est ça.
Quand bien même, on ne pourra pas rattraper. Parce que, je prends un exemple intéressant par rapport à la production. On nous dit, les prix augmentent, donc il faut augmenter les salaires. Le problème, c'est que la production alimentaire, des denrées alimentaires, elle, diminue. Oui. Donc, quand bien même vous augmentez les salaires, pour lutter contre l'inflation, vous ne pouvez pas suivre la production. Donc il y aura quoi qu'il arrive de l'inflation. Elle ne peut qu'augmenter, malheureusement.
Catherine Rambert, est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qui va nous tomber dessus? Parce qu'on n'a pas l'impression, souvent on discute avec des gens, qu'on se rend vraiment compte que oui, le pire est devant nous, en fait.
On sent bien que c'est pas le meilleur qui se profile, hein, c'est clair. Alors moi, je me positionne davantage en consommatrice qu'en économiste comme Pierre. Moi, ce qui me panique et ce qui m'inquiète, c'est justement la panique qu'on sent chez les consommateurs. Pendant le Covid, confinement, les gens se ruent sur les pâtes, le riz, le papier toilette. Ok. On sort de ça, les gens se détendent, c'est bon et tout. Je pense que tout le monde a plein de pâtes et de riz chez soi, donc ça va aller. Là maintenant, pénurie d'huile de tournesol. De nouveau, c'est une espèce de panique, de fébrilité. On se rend bien compte qu'il n'y a plus de sang-froid, plus de confiance. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Ça veut dire que le raisonnable n'est plus audible. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, on a peur. Alors, on peut comprendre les gens, hein. Le contexte est très stressant. Mais moi, c'est plutôt ce point de vue-là qui m'inquiète. Je rappellerai quand même, alors la situation n'était pas la même, mais 74, premier choc pétrolier, l'essence avait augmenté de 400% en quelques mois. On est loin de ça, mais on est dans une crise qui s'annonce difficile, sous Raymond Barre et tout. Moi, j'étais née sous Raymond Barre, il y avait des l'inflation à 8, 10 et 12%.
14% de fin des années 70, alors, bon, 14%.
Ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter ça, ça veut dire qu'il y a un climat de panique, d'anxiété. Et puis,
c'est normal, c'est de la panique. Enfin, excusez-moi, quand vous voyez que tous les prix montent, et encore, on parle par exemple du paquet de pâtes, mais donc qui est passé de 1 euro à 1,30 euros. Mais on ne parle pas du gros œuvre. C'est-à-dire que le bois a augmenté, l'acier a augmenté. C'est-à-dire que le Français qui a toute sa vie rêvé d'acheter une maison, aujourd'hui, sa maison, elle coûte beaucoup plus cher qu'il y a 3 ans. Et donc, il va y avoir beaucoup de Français qui vont devoir faire des arbitrages dans leurs dépenses.
Et qui dit panique dit violence. C'est-à-dire que quand on panique, quand on a peur, moi, je crains que, d'ailleurs, certaines grandes surfaces vont commencer à mettre en place des pare-feux pour pas que les gens partent avec les caddies remplis d'un seul produit pour faire des provisions, parce que les gens vont devenir dingues. C'est un petit peu ce schéma-là qui m'inquiète, même si on le comprend.
Laurent Dandrieux, est-ce que vous avez conscience, vous aussi, voilà, que les gens regardent de plus en plus leur ticket de caisse, est-ce que vous sentez une inquiétude, vous?
Oui, je pense que l'inquiétude, elle est grandissante, parce qu'on voit pas très bien, on a l'impression d'être dans une espèce de spirale inflationniste dont on voit pas très bien comment on va pouvoir sortir. Normalement, l'avantage de la croissance, Pierre m'arrêtera si je dis une bêtise, de l'absence de croissance, c'est que ça freine l'inflation, mais là, comme les raisons de l'inflation sont exogènes à notre économie, cet effet-là ne se produit pas. Après, on parlait de panique, il y a quand même, dans ces hausses de prix, il y a différentes choses qui sont pas du même ordre. C'est-à-dire que, par exemple, Catherine parlait du tournesol. Bon, là, il y a une raison, parce qu'il y a une pénurie, parce que le principal producteur mondial de tournesol, c'est l'Ukraine. Donc, on comprend qu'effectivement, il y a moins de tournesol, donc ça coûte plus cher. Donc là, il y a une forme de logique incompressible. En revanche, c'est vrai que dans la hausse des prix généralisée, généralement, le premier facteur, c'est la hausse du prix de l'énergie. Par exemple, c'est dans le coût du pain, par exemple, je crois que le coût du blé ne rentre que pour 5%, et la hausse de l'énergie impacte beaucoup plus la hausse du pain. Or, il n'y a pas de pénurie sur l'énergie. Là, on est vraiment dans un phénomène... pour l'instant. Mais on est vraiment dans un phénomène spéculatif lié à une panique qui fait tente à laisser croire que peut-être il pourrait y avoir une pénurie plus tard. Donc, Moi, je pense qu'il y a, enfin, je suis surpris.
Je rappelle que la Russie vient de couper le gaz, quand même, à la Bulgarie et à la Pologne.
Oui, oui. Alors, par ailleurs, c'est vrai que moi, je dis ça depuis le début. Je pense que malheureusement, ces sanctions sur le gaz russe causent plus d'embarras aux populations occidentales que Vladimir Poutine, qui a pas l'air extraordinairement intimidé par ça pour le moment. Enfin, on voit pas que ça ait beaucoup influencé sur. Oui, d'accord, mais le but d'une sanction, c'est quand même qu'elle soit efficace. Là, l'efficacité, pour le moment, est surtout sur le panier de la ménagère occidentale.
Alors, dans un instant, on sera avec Emmanuel Lechypre, évidemment, notre spécialiste éco sur RMC. Mais avant cela, on va prendre Anne, qui nous a appelé de Quimper au 3216. Bonjour, Anne.
Oui, bonjour.
Eh ben, merci d'être avec nous sur RMC, Anne.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir prise. C'est gentil.
Anne, est-ce que vous êtes inquiète? C'est pas grave. On est sympa, on ne mord pas. Vous allez voir. Vous allez passer un bon moment.
Vous êtes bretonne en plus, donc ça.
En plus, vous êtes bretonne. Oui, alors ça, c'est évidemment un bon point. Anne, est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir? Vous, est-ce que vous avez commencé, à accommoder votre quotidien, à faire des petits sacrifices, notamment?
Ah bah alors écoutez, moi c'est depuis déjà l'été dernier j'ai commencé, j'ai anticipé je pense, j'ai commencé à faire à regarder, à prendre du local, des produits de saison, à faire mon propre petit potager. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de place pour faire grimper des plants de tomates cerises. Vous avez besoin de petites salades, il vous faut un petit bac. Enfin, voyez, c'est vous faites un petit roulement et vous avez vos produits de saison. Ensuite, vous pouvez troquer aussi. Alors moi, je m'y connais un peu en informatique, donc j'aide les personnes qui ont des difficultés en informatique. En échange, ils me donnent des œufs, ils me donnent du poisson, des choses. Voilà, vous arrivez toujours à trouver des astuces de toute façon.
C'est la débrouille, c'est ce que vous dites. Voilà.
On revient comme avant, de toute façon. Et puis vous cuisinez aussi, vous changez votre mode de cuisine, vous faites du vous-même. Enfin, vous préparez vous-même des ragoûts. Ça coûte pas excessivement cher, les ragoûts. Et puis vous faites plusieurs plats avec. Vous mettez au congélateur ce qu'il y a le trop plein. Vous faites vous-même vos confitures avec les produits de saison. Ici, on a la chance en Bretagne. On a des kiwis, on a des pommes. Donc vous faites
des fraises.
Des fraises. Vous faites vous-même vos confitures, mais surtout, vous faites également vous choisissez vos boutiques. Vous n'allez plus dans les grandes surfaces où vous dépensez des fortunes avec des produits que, en général, vous n'utilisez pas ou peu. Et puis, vous allez dans les boutiques anti-gaspi. Alors là, vous voyez, je suis allée tout à l'heure dans une boutique anti-gaspi. J'en ai eu pour 27 euros. J'avais une caisse pleine, quoi. Enfin, vraiment. Vous faites. Vous essayez, il faut être curieux. Voilà. Regardez les étiquettes.
Et débrouillard, en fait.
Voilà. Vous changez votre mode de consommation. Et voilà. Et vous attendez que la crise passe, quoi. Enfin, je sais pas. Je comprends pas les
gens. Vous êtes très philosophe, Anne, hein. Non, mais j'aime bien votre discours. On change un peu nos mentalités. On attend que la crise passe.
On n'a pas le choix.
Là où j'aurais pas être pessimiste, j'admire l'optimisme d'Anne, mais quand elle dit attendre que la crise passe. Elle est pragmatique. Alors, pragmatique ou pas, parce qu'attendre que la crise passe, Emmanuel pourra le confinement ou l'infirmer, Emmanuel Lechypre, mais je suis pas certain que la crise va passer très rapidement. On est au devant, je pense, encore une fois.
Oui, mais Anne, elle a aménagé son mode de vie,
Bien sûr, mais de là à dire qu'en attendant que la crise passe, je voudrais pas être le pessimiste qui broie du noir, mais j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, on est au devant de lendemain qui vont s'améliorer dans un positif quand on voit tout ce qui se passe actuellement. Peut-être que je me trompe totalement et que Anne a raison, elle est pragmatique, elle est optimiste et c'est elle qui aura raison à la fin des fins. Aujourd'hui, attendre que la crise passe, est-ce qu'il va falloir attendre 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, 15 ans, 20 ans?
Merci en tout cas Anne d'avoir été avec nous et de nous avoir donné vos petites astuces du quotidien. Merci beaucoup Anne. On est avec Emmanuel Lechypre et quel bonheur d'être avec Emmanuel, notre spécialiste éco sur RMC. Salut Emmanuel.
Salut à tous les amis.
Emmanuel, écoutez, je vous appelle. C'est pas très gai là l'actualité quand même. On l'a dit, cette croissance
nulle. Pierre, il m'a donné envie d'aller me recoucher. Là.
Et moi aussi. Mais il fait à chaque émission, quel que soit le débat. Vous voyez, c'est comme ça.
Non mais c'est Emmanuel, parce qu'il a pas envie de faire son potager, je crois.
Emmanuel, vous allez nous remonter le moral ou pas du tout là?
Oui, alors, je partage un point avec Pierre, c'est que je pense qu'il y a des choses, effectivement, qui vont durer. C'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer durablement, par exemple, à vivre avec des prix de l'énergie plus chers. L'énergie va prendre une part plus importante de notre budget dans les années qui viennent. Et ça, c'est pour des raisons purement mécaniques. Hein. Le fait qu'on n'a pas investi dans le pétrole pendant 10 ans, donc on va être durablement dans une période où il ne va pas y avoir assez de pétrole pour répondre à la demande. Même chose pour le gaz, les centrales nucléaires, les nouvelles qu'on nous promet, elles ne seront pas là avant des années, etc., etc. Donc oui, il va falloir vivre avec de l'énergie chère. Après, les produits alimentaires, c'est différent parce que c'est des problématiques de récolte, etc., de géopolitique.
Enfin, ils vont avoir du mal à semer en Ukraine hein, quand même.
Non, mais alors justement, c'est là où on est, moi je pense, à un point de bascule. Aujourd'hui, honnêtement, l'édifice de l'économie française, il tient, et comme dans beaucoup de pays d'ailleurs proches, parce que le marché de l'emploi tient. Le marché de l'emploi est en forme, il est sain. Et ça, quand vous regardez, par exemple, ce que vous dites, les Français qui ont été interrogés par l'INSEE il y a quelques jours, ils disent, OK, on fait le dos rond, mais quand vous leur demandez votre niveau de vie dans un an, vous le voyez comment ? Ils le voient meilleur qu'aujourd'hui, plus élevé qu'aujourd'hui. Ils voient qu'ils vont épargner. Et donc, il y a cette idée qui est entrée, et exactement comme un peu ce que dit Yann, qui est que on vit une période temporaire. OK, c'est dur, il faut aller puiser dans son pouvoir d'achat pour pouvoir acheter des choses qui sont temporairement plus chères, et on n'est pas inquiet pour notre emploi. Et les Français ne sont pas inquiets pour leur emploi aujourd'hui. Et on a la même chose chez les entreprises. Les entreprises, pour le moment, elles investissent comme avant. On l'a vu dans les chiffres de croissance qui ont été publiés ce matin. Elles ont toujours autant d'intention d'embaucher qu'avant, et c'est toujours aussi dur de recruter.
Oui, donc, mais ça tant mieux. Mais sauf qu'on se dit aussi, en regardant les prix, Emmanuel, que va y avoir des sacrifices à faire, encore une fois. Alors, là, je parlais du prix des matières premières, le bois, l'acier. Comment vous faites si vous avez un projet, par exemple, immobilier? Aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture. Votre voiture, elle va arriver dans un an et demi. Il y a plein de choses comme ça quand même qui font que... Donc vous voulez acheter une voiture, vous dites je l'achète pas maintenant parce que j'aurai dans un an et demi, j'attends le prochain modèle dans 3 ans. Donc tout ça va ralentir certains secteurs quand même.
Voilà. Non mais c'est ça qui est... c'est pour ça que je dis qu'on est à un point de bascule. C'est-à-dire que pour le moment, les entreprises comme les ménages considèrent qu'on vit une crise temporaire. En revanche, effectivement, on voit que... et pourquoi on pensait que c'était temporaire? Parce qu'on se disait qu'on allait se débarrasser gentiment du virus, la guerre en Ukraine allait durer quelques semaines. Et là, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'en Chine, on est en train de reconfiner, que donc toutes les problématiques de logistique qu'on avait avec les ports fermés, etc., ça va encore durer un moment. Que la guerre en Ukraine, manifestement, elle va durer encore un moment. Et que donc, on est en train de s'ancrer dans cette idée de peut-être est-ce qu'on est en train de changer de monde? Et c'est là où il y a des repères qui sont... Moi, je comprends que les gens soient complètement bouleversés. Songez qu'un monde avec 0 croissance et 5% d'inflation, ceux qui ont moins de 40 ans ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais connu ça. Il faut remonter au milieu des années 80 pour
tout à fait.
Ça. Donc, moi, je comprends que les repères aujourd'hui soient considérablement perturbés, mais il faut quand même garder une certaine forme de raison. Et moi, je trouve que Anne, elle a raison. Il y a aujourd'hui quand même des marges de manœuvre. Il y a quand même des réserves qui ont été accumulées. Disons que
quand on aura fini les stocks, on va faire comment?
On peut pas dire aujourd'hui définitivement qu'on est en train de courir à la catastrophe. Voilà. Okay. Il y a encore. On peut.
Il y a des motifs d'espoir.
Il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir. Oui. Par contre.
Oui, moins 15% de chômage sur l'année, par exemple.
Non mais. Effectivement. Ça c'est des très bonnes nouvelles quand vous savez que. Attendez. Parce que la meilleure assurance contre la pauvreté et les difficultés de la vie, c'est quand même d'avoir un boulot, même si on paye son essence plus cher.
Tout à fait. Bosser.
Voilà. Donc ça, par contre, le jour où les entreprises se diront, là, ça commence à durer. Moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le projet que j'avais d'embaucher, je le revois? Là, c'est là où honnêtement, il faudra commencer à s'inquiéter. Et c'est à partir du moment où les entreprises commenceront à revoir en baisse leur plan de recrutement que là, on pourra se dire. On risque de basculer vraiment dans la récession et pas seulement dans un simple ralentissement de la croissance.
Alors Emmanuel, on a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous appellent sur ce sujet. On est avec Anthony qui nous appelle de Laval. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Alors Anthony, vous êtes auto-entrepreneur et vous ressentez très 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 durement l'inflation galopante. Hein.
Ah bah oui, tout à fait. Je peux pas être trop d'accord avec Emmanuel Le Chypre, comme souvent d'ailleurs. ce qu'il y a, par exemple, moi j'ai commencé mon activité il y a un an et demi.
D'accord.
Je fabrique des petits tabourets en bois gravés, personnalisés pour les enfants. Voilà. Les tasseaux que j'utilise pour faire les pieds, j'ai acheté ça par lot de 4, je payais ça 14,50€.
D'accord, pour 4 pieds.
Voilà, pour le lot de tasseaux de 2,40 m.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà. Aujourd'hui, ils sont à 27,90 €.
Ouais, donc fois deux.
Il y a un an et demi, 14, aujourd'hui 27.
Ouais, bah bien sûr,
voilà. Ouais, bien sûr.
C'est ça. Donc du coup, comment je fais moi? J'y suis allé ce matin, j'ai halluciné. J'arrivais avant, enfin pas tout entrepreneur, à avoir une petite remise de la part de mon fournisseur. Là, ce matin, il m'a dit, fini les remises. C'est fini, je peux plus, j'ai plus le droit. Voilà. Donc du coup, je fais comment? Je suis sur un prix bas sur mon produit parce que moi, je veux que mon produit, il y ait plus de personnes possibles qui puissent en profiter. Seulement, donc c'est pour ça que j'ai mis un prix bas volontairement.
Ils sont à combien vos tabourets, Anthony?
Ils sont à 31 €. J'ai 2h30 de travail dessus minimum.
Ah oui, 31 €, évidemment, si vous achetez vos tasseaux 28 €, c'est sûr que oui, votre marge, voilà, elle est faible. Donc, si c'est 3 € par tabouret, ça va pas le faire, ouais, c'est sûr.
J'ai pas le choix, je suis chez moi. Alors, je pars toujours du principe où celui qui se contente de peu ne manque de rien. Donc moi, donc j'arrive à avoir 1 000 € par mois, je travaille chez moi, je demande pas plus. Mais c'est vrai que là, ça commence à être compliqué quand même.
Et c'est ce que vous avez? Vous avez 1 000 € par mois aujourd'hui?
À peu près.
Vous, voilà. Vous faites comment avec 1 000 € par mois, Anthony?
Alors, j'ai ma compagne qui travaille à côté, bien sûr. Hein. On fait attention à toutes nos dépenses tous les mois. Voilà, je fais attention. Je ne me plains pas parce qu'on vit très bien. J'ai ma maison. Voilà, puis j'ai travaillé avant aussi. Donc là, je vais avoir 35 ans. J'ai eu le temps d'épargner avant. Mais c'est vrai que la vie augmente et à tout point de vue.
Je précise que 1 000 € par mois, c'est sous le seuil de pauvreté.
Bien sûr.
Ah oui, tout à fait. Oui. Mais comme je dis, je pars du principe où celui qui se contente de peu ne manque de rien. Donc du coup, je fais mes petits légumes à côté, je fais attention à mes sorties. Ouais, les restaurants, bah, de toute façon, on a pris. Moi, j'ai pris l'habitude de ne plus y aller. Comme ça, c'est réglé. C'est vraiment un plaisir d'y aller de temps en temps. Le cinéma, c'est pareil. Et puis voilà. Mais bon, après, j'ai la chance de pouvoir faire autre chose à côté. Je profite de la nature, je profite de tout ce qu'il y a. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Mais...
Est-ce qu'à terme, vous allez répercuter la hausse de vos coûts sur le prix de vos tabourets? Vous pensez que vous allez être obligé de le faire?
Oh, là, je ne vais pas avoir le choix. Là clairement, mais ça ne va pas être énorme. Hein, ça va être 2 euros. Mais je n'ai pas le choix, en fait. J'ai vraiment pas le choix. Et je ne veux pas. Hein, ça m'arrache le cœur de pouvoir. Parce que je fais ce travail-là. Moi, j'ai pris l'initiative de faire ce travail-là pour gagner ma liberté. Je me sens libre. Et tous les jours, je me dis que quand je travaille, j'ai gagné ma liberté. Je suis content. Et je n'ai pas envie que ce soit l'argent qui dirige ma vie. Pas du tout. Donc du coup, je suis heureux de ce que j'ai. Mais au bout d'un moment, c'est pareil, j'ai 3 enfants, moi, en bas âge.
Bien sûr.
Faut apporter à manger à la maison. Hein. Donc c'est compliqué.
Ben merci beaucoup en tout cas Anthony pour ce témoignage et effectivement ben voilà, on voit bien concrètement en quoi cette inflation elle pèse bien sûr sur le moral des Français, ouais. sur leur travail, sur
qu'avec la une croissance zéro, les entreprises vont pas pouvoir augmenter leurs salariés, quoi. Et donc du coup
déjà que même quand elles sont en croissance, elles le veulent pas,
c'est
donc
un peu la double peine.
Mais on voit surtout, c'était très Catherine intéressant Robert. Ce qu'a dit aussi Emmanuel Le Chypre effectivement sur les perspectives de l'économie en France, c'est pas pire, il y a de l'emploi, etc. On voit bien la lecture vue du haut et puisque la différence de ce que vivent les gens. C'est-à-dire, je pense qu'Emmanuel Le Chypre a raison de nous rassurer, mais effectivement, la vie des gens, quand même, est beaucoup, beaucoup plus dure. C'est un pléonasme, mais c'est toujours intéressant ce décalage de perception.
Et on est également avec Philippe et Philippe qui nous appelle de Montluçon. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et Philippe, vous êtes en recherche d'emploi, donc j'imagine que ça doit être encore plus compliqué pour vous.
Alors, moi, je vais faire le plus rapidement possible, hein, parce que vous n'allez pas perdre de temps. Je vais vous faire
un historique. Je ne perds pas de temps avec vous, Philippe. Il n'y a pas de souci.
C'est très gentil, merci. je vous fais un historique très rapide de ma petite vie. Alors, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Il y a des gens bien plus malheureux. Il y a des enfants qui souffrent partout. Bref, je donne juste un exemple. Hein, inutile de. Enfin, personne ne va penser ça, mais je n'essaye pas de faire le misérable. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon boulot à cause du Covid. Ma boîte a fermé, pas de souci. Depuis 2 ans, donc j'en avais 46, j'en ai 48 désormais, j'enchaîne les petits CDD. Ma compagne travaille, elle bosse elle fait des ménages, voilà, fait des ménages. Et donc on a évidemment des salaires qui sont très bas. Donc en l'occurrence, depuis que je suis au chômage, je perçois un salaire de 1 090 € en moyenne auprès de Pôle emploi. Et j'alterne évidemment énormément de CDD. Tous ces petits CDD, alors entre guillemets, c'est pas de ma faute, mais j'ai juste un bac littéraire et j'ai pas de diplôme plus que ça.
D'accord.
J'ai pas de bac +2, +3 ou quoi que ce soit. J'ai une grosse expérience dans le commerce, plus de 25 ans, et dans le service et l'accueil, donc je suis plutôt à l'aise avec ce domaine-là. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je trouve du travail, est-ce que c'est la région qui est sinistrée ou pas, tout le temps je trouve des boulots qui sont payés au SMIC, donc 1200, 1300, 1400 € avec quelques variables, des primes de ci, de là, mais ça ne change pas grand-chose. Et là, tout récemment, alors là j'ai le téléphone à l'oreille, je peux pas vérifier, peut-être que vos intervenants vous-même pouvez vérifier, le prix à l'instant T, là, en moyenne du fuel. C'est parce que je voulais juste vous donner un exemple, comme j'expliquais.
Ouais, c'est un 80 un peu. Ah, dans du fuel, non, je pensais que vous parliez du gasoil. Dans du fuel, je ne sais pas.
Non, du fuel, ouais. Là, on doit être autour de 2 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le litre. Avant la guerre en Ukraine, il était pratiquement 50% moins cher. Donc moi, je pouvais faire rentrer dans ma, pour ma chaudière autour de 500 litres. Et j'avais la chance de pouvoir payer en deux fois, donc c'était très pratique. Là, maintenant, je ne peux plus faire rentrer de fuel. Donc quand vous parlez de 37% de Français qui ont du mal à boucler les fins de mois, moi ça me terrorise et ça me fait de la peine. Dans ma famille, je suis connu pour être quelqu'un de très positif, de pas avoir j'ai jamais de baisse de morale. Mais là en ce moment, avec le contexte international, le contexte économique, le contexte politique, le contexte financier qu'il y a, je vous cache pas que je trouve ça vraiment triste et je suis très très inquiet malgré tout du devenir et de l'avenir qui se profile pour nous. Juste un exemple et après je vous laisse parler parce que je suis désolé, je suis dithyrambique. Mais vous voyez aujourd'hui là, au jour d'aujourd'hui, je suis à moins 75 euros de découvert. C'est une somme qui est ridicule. Malheureusement, je suis à découvert depuis plusieurs semaines, voire presque un mois. Donc ma banque, que je ne citerai pas, qui a le même nom qu'une capitale française, il y en a qui.
Ok.
Bref, pour l'instant, elle est plus ou moins indulgente, mais va me prendre, par exemple, j'ai vérifié tout à l'heure, 140 euros de frais, parce que je suis à
140
euros de découvert. 140 euros de frais.
Donc c'est
là,
énorme.
Je vais me séparer de quelques objets personnels. Tu peux pas négocier, je peux plus négocier, ils sont pas d'accord. Ils veulent pas. Bon, bref. Je vous dis, j'essaie pas de faire pleurer dans les chômeurs ou réclamer quoi que ce soit, mais c'est que, comme Emmanuel l'a dit, il y a des choses qui sont positives. Il faut croire en l'économie, il faut croire, effectivement, sur une économie qui peut repartir sur plein de choses très positives. Mais au jour d'aujourd'hui, chaque personne, ces fameux 37%, des petits gens descendants, comme disait un certain François président, Hollande. Des gens qui touchent entre 1000 et même jusqu'à 2000 euros net, ça peut paraître une grosse somme par rapport à chez nous dans les campagnes, mais jusqu'à cette somme-là, on est des gens qui galèrent. On galère tout le temps. Une fois qu'on a payé nos charges, une fois qu'on a payé le fuel, par exemple, la nourriture, toutes les matières premières qui augmentent et le loyer, on se retrouve avec rien. Rien du tout. Et donc, comment voulez-vous que le moral augmente? Comment voulez-vous que...
Ben c'est
très très compliqué, à plein de niveaux. Alors je vous dis, je recherche pas quoi que ce soit, je demande pas l'aumône ou quoi que ce soit, il y a des gens très malheureux partout. Mais mon exemple est très probant, je pense.
Tout à fait.
Et le moral des Français, ça me désespère. Et c'est, voilà, je suis désolé, j'ai été...
Moi je comprends votre désarroi. En plus, vous le dites, voilà, franchement, vous n'avez pas eu de chance. Votre entreprise qui ferme à cause du Covid, vous enchaînez les CDD. Moi, franchement, je vous souhaite bon courage et surtout, j'espère que vous allez vite retrouver un emploi parce que déjà, voilà, vous parlez extrêmement bien. Vous êtes dans le commerce. Normalement, je me fais pas de soucis. Ça doit marcher. En tout cas, bon courage pour la suite, Philippe. Et puis merci vraiment de nous avoir appelé parce que c'est un témoignage qui était très très intéressant et assez poignant, effectivement. Et vous avez beaucoup d'autres témoignages, justement, de la même veine, j'ai envie de vous dire, Martin.
Exactement, sur Direct Studio, vous êtes nombreux à nous faire part globalement des mêmes sentiments, des mêmes émotions que celle de Philippe. Il y a Gwendoline, notamment, qui nous explique que oui, elle a peur pour l'avenir. Le GIEC nous explique que tout sera tombé d'ici 3 ans. La Troisième Guerre mondiale est évoquée.
On n'a pas encore parlé
de ça. Ça semble de plus en plus inéluctable. En plus de ça, on ne s'en sort plus dans la vie de tous les jours. Elle est mère célibataire, elle tremble à chaque passage en caisse. Voilà ce qu'elle nous écrit sur Direct Studio. Elle n'arrive plus à payer toutes ses factures. Au point qu'elle n'arrive plus, nous dit-elle, à s'empêcher de dire qu'elle a été égoïste de faire un enfant. Voilà ce que nous raconte Gwendoline sur Direct Studio.
Ouais, c'est dur pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont appelés au standard au 32-16. Et merci à Emmanuel Lechypre, notre spécialiste éco sur RMC, d'avoir été avec nous. Bah tiens, on parle d'Amazon dans un instant. C'est Amazon, ça cartonnait pendant le confinement. Après, et ben là, pour la première fois depuis 20 ans, ralentissement des ventes. Est-ce qu'il faut finalement se dire que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on revient finalement à du commerce de proximité ou est-ce que c'est parce que on consomme moins? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, Canal 23, avec Martin Bourdin, avec Laurent Dandrieu, chef du service culture des valeurs actuelles, avec la journaliste et écrivain Catherine Rambert, l'économiste Pierre Rondeau. Et on va tout de suite débattre autour de la mauvaise nouvelle du jour. Et cette mauvaise nouvelle, elle est pour Amazon. L'entreprise américaine vient d'annoncer ses premières pertes depuis 2015 et affiche sa plus faible croissance de vente, Martin Bourdin, depuis 20 ans. C'est peut-être une nouvelle ère qui s'annonce.
Oui, alors on va voir un peu, hein, c'est peut-être encore un peu tôt pour parler de nouvelle ère, en tout cas.
Je ne sais pas.
Même s'il y a une croissance en baisse, il y a quand même croissance. Amazon dégage encore plus de 116 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le premier trimestre. Mais effectivement, c'est quasiment 9 milliards de moins qu'attendu. Les ventes n'ont augmenté que de 7%. En fait, comme beaucoup de commerces, Amazon subit les conséquences de la guerre en Ukraine. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbés. Les produits vendus sont également touchés par l'inflation. Le géant de la vente en ligne évalue à 6 milliards de dollars les coûts additionnels qu'elle a dû régler pendant ces trois premiers mois de l'année. À partir du 12 mai également, certains prix vont aussi augmenter sur Amazon. Les prix des produits vendus par des marchands tiers qui vendent leurs produits via Amazon. L'entreprise va appliquer une surcharge inflation et carburant de 4,3% sur ces produits-là. Ça fera une augmentation moyenne de 20 centimes des tarifs d'expédition en France. Cette situation a fait chuter le cours de l'action Amazon de près de 9% hier soir. Mais vu le contexte actuel, pas sûr que ce soit les commerces de proximité qui en profitent. C'est peut-être plus qu'on achète moins sur Amazon, tout simplement parce qu'on achète moins tout court.
Alors le ralentissement des ventes d'Amazon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Catherine Rambert ?
C'est jamais une bonne nouvelle quand une entreprise perd de l'argent ou gagne moins d'argent. Néanmoins, Jacques Chirac avait une expression quand il se désintéressait d'un sujet, il disait « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ». Alors, j'ai pas ces attributs, mais c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis, si vous voulez. On va pas pleurer sur Amazon, d'accord ? Ils gagnent un peu moins d'argent, ils reverseront un peu moins de dividendes aux actionnaires. Quand on voit le sujet qu'on vient de traiter, j'ai pas envie de pleurer. J'ai juste envie de rappeler aux gens que effectivement, s'ils veulent vraiment acheter en ligne, il y a de très bonnes entreprises et librairies françaises qui vendent en ligne, ils peuvent acheter chez elles. Tous les magasins de jeux vidéo, de jeux en bois vendent en ligne également. Donc on peut se passer d'Amazon, on peut acheter français. En plus, ça fera moins travailler, ça fera une empreinte écologique moins désastreuse.
Il y a des autres Amazon en France, hein, donc.
Oui, mais enfin, on connaît les conditions, dans quelles conditions on peut travailler les gens. C'est des conditions de travail mauvaises, des gens mal payés, pressurisés. Donc voilà. Donc non, je dis pas que c'est une bonne nouvelle parce que ça ne me réjouit pas que l'entreprise ait des difficultés. Mais franchement, il y a des sujets sur lesquels je m'appuie toi davantage.
Est-ce que finalement le confinement aura servi à ça, Pierre Rondeau, c'est-à-dire que les Français, bien sûr, ont commandé beaucoup sur Internet, mais aujourd'hui retournent aussi peut-être vers leur commerce de proximité, vous voyez ?
Bien sûr. D'ailleurs, il y a toutes les études le démontrent. Alors, je parle pour l'année 2021, sûr qu'en 2022, avec la crise, l'inflation, tous les commerces, y compris en ligne et en présentiel, souffrent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, on a eu une augmentation considérable des bénéfices d'Amazon parce que le confinement, les gens ont acheté en ligne. Mais en 2021, la croissance de la vente en librairie présentielle de quartier, c'est différent. Il y a différents échelons pour les librairies. Premier niveau, deuxième niveau. Premier niveau, c'est les grandes surfaces. Et deuxième niveau, c'est les librairies de quartier. La croissance a été de 14,5% pour la vente de livres librairie. Donc, il y a une augmentation et un retour au présentiel, un retour à aller, venir dans une librairie, sentir le livre, le toucher, que le commerce en ligne. Et donc là, Amazon, effectivement, je rejoins Catherine, qui souffre. Serait-ce parce que, finalement, les gens changent leur mode de consommation, passent du en ligne au présentiel. Pour 2021, c'est sûr, je pense qu'il y a une certitude à ce niveau-là. Pour 2022, c'est plus le contexte conjoncturel qui fait que tout le monde souffre, y compris Amazon. Et c'est vrai, pour conclure, doit-on s'apitoyer sur Amazon qui perd de l'argent ? J'ai pas envie de m'apitoyer sur eux. Je préfère penser aux Français qui souffrent aujourd'hui de l'inflation que sur Jeff Bezos qui part dans l'espace et qui perd 9 milliards d'euros.
Oui, mais enfin, après, c'est pas que Jeff Bezos. On peut aussi dire que si Amazon perd de l'argent,
bien sûr.
Le commerce en ligne, dans sa globalité, perdra de l'argent, dont des entreprises françaises.
On va pas se féliciter d'une entreprise qui crée des emplois et qui souffre. C'est sûr, c'est une évidence. Et tout comme Amazon, je aussi m'apitoie sur toutes les entreprises, y compris les micro-entrepreneurs, comme on est en première partie, qui perdent de l'argent, qui souffrent du contexte conjoncturel et qui souffrent.
Est-ce que c'est aussi un retour à du moins superficiel, Laurent Dandréau ? Parce que ce serait que quand on commande en ligne, et je sais de quoi je parle, souvent on est tenté par des trucs, vous savez, des petites pubs, des petits gadgets là, à 3 euros, dont on n'a aucun besoin d'ailleurs. Mais bon, on se dit, hop, pourquoi pas, etc. Alors que vous êtes moins tenté quand vous allez dans votre commerce de proximité. Est-ce que aussi, il y a finalement un retour à de l'important, et moins de superficiel ?
Oui, je pense que c'était assez net dans les témoignages d'auditeurs qu'on a eu tout à l'heure, notamment celui de Dan. On voit bien qu'effectivement, dans ces situations où on est au centime ou à l'euro près, on fait des choix et c'est évidemment le superflu qui se trouve sacrifié en premier. Pour revenir à Amazon, déjà, ils sont en croissance de 7%, donc je pense qu'il y a beaucoup de commerçants qui aimeraient avoir une croissance de 7%. Oui, mais
c'est le plus gros ralentissement depuis 20 ans quand même.
Oui, mais ça n'est qu'un ralentissement d'une croissance. Et donc, après, je pense que c'est pas une bonne nouvelle aussi pour les commerçants indépendants qui sont distribués par Amazon, puisque donc c'est une part importante
de plus en plus importante.
Parce qu'ils ont des corners made in France, notamment.
Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, cette augmentation des coûts de livraison, elle impacterait les ventes de ces commerçants distribués par Amazon, mais pas les produits délivrés par Amazon lui-même directement. Donc, Ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour les commerçants indépendants. Je pense qu'aussi la situation est très différente suivant l'endroit où vous habitez, parce que quand vous êtes dans une grande ville où vous avez un choix de commerce de proximité qui est assez important, bah effectivement, vous pouvez plus facilement faire ce genre d'arbitrage, de dire bah non, je vais faire l'effort d'aller dans ma librairie, je vais faire l'effort d'aller acheter mes vêtements dans un magasin physique. En revanche, quand vous êtes en province et que vous habitez loin d'un certain nombre de commerces et que l'essence est très chère, bah, vous avez probablement beaucoup plus tendance à consommer davantage en ligne.
Alors, on est avec Johan Petiot, il est directeur général de l'Alliance du Commerce. Bonjour Johan, merci d'être avec nous sur RMC.
Bonjour.
Johan, est-ce qu'il faut se réjouir finalement du ralentissement de la croissance d'Amazon en se disant que s'il y a un ralentissement, ça va profiter aux autres finalement ?
Alors, vous l'avez très bien résumé au cours du débat, c'est-à-dire que au-delà d'Amazon, bien sûr, on pourrait se réjouir en se disant que les autres en profiteront, mais en réalité, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on constate un vrai ralentissement de la consommation qui impacte aussi bien les commerçants physiques que les commerçants en ligne, qui s'appellent Amazon ou même toutes les enseignes qui peuvent avoir ou tous les commerces qui peuvent avoir un site en ligne. On voit bien, même cause, mêmes effets. Inflation, crise du pouvoir d'achat, hausse du coût du transport, hausse du coût de la production font que aujourd'hui les commerçants, quels qu'ils soient physiques ou en ligne, ont une augmentation de leur charge extrêmement forte qu'ils n'arrivent pas à répercuter en totalité sur les prix, et qu'en face, du côté de la consommation, on a une vraie crispation, une vraie morosité de la consommation. Elle ralentit encore, il suffit de regarder les chiffres de l'INSEE, c'est -1,3 dans la dernière note de l'INSEE. Le contexte géopolitique, la crise du pouvoir d'achat fait que les gens consomment moins.
Et donc, mais ils consomment moins ou ils consomment différemment ?
Non, aujourd'hui, malheureusement, c'est véritablement une baisse de la consommation et des arbitrages beaucoup plus forts des clients sur leur consommation. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je peux me l'acheter ? Et d'abord, ce sont d'abord les dépenses liées à l'énergie, l'alimentation. Et puis après, en effet, on se fait plaisir s'il vous reste un peu de pouvoir d'achat.
Mais ça veut dire en fait que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais je veux m'acheter un t-shirt, c'est-à-dire que avant, mettons, je l'achetais sur Amazon, aujourd'hui je l'achète pas sur Amazon, c'est pas pour ça que je vais l'acheter dans mon petit commerce à côté en fait, chez mon petit marchand d'habits quoi.
C'est ça. Nous, si on regarde notre indice, depuis le début de l'année, notre indice que l'on suit avec Ritaline sur les enseignes de l'habillement, nous sommes à -14% d'activité par rapport à 2019. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas du tout retrouvé notre rythme de croissance normal, on va dire. Et alors, il faut savoir qu'on a eu aussi un début d'année extrêmement pénalisé par le mois de janvier, marqué par la crise sanitaire. Il y a eu, au moment des soldes, une très, très mauvaise période.
Mais tout le monde avait le Covid.
Voilà, y compris en février et mars, nous avions un recul d'activité. Alors que Amazon, vous l'avez très bien dit, c'est simplement une activité qui progresse moins fort que prévu. Pour les enseignes, au global, c'est quand même un marché qui reste encore en retrait par rapport à une année normale. Néanmoins, ce que vous avez dit, et là où on peut se réjouir, où on peut voir du positif, c'est dès lors que les clients ont la possibilité de revenir en magasin, que la crise sanitaire se calme, et ça on l'a très bien observé au dernier trimestre de l'année dernière, c'est que les clients, les consommateurs ont plaisir à revenir en magasin. Ah bah oui. Et ça on l'a très bien vu puisqu'on l'a fait un dernier trimestre l'année dernière, plutôt satisfaisant, mais on était dans un moment où la crise sanitaire était un peu moins forte, et malheureusement on n'avait pas, nous connaissions pas le contexte géopolitique que nous connaissons aujourd'hui.
Eh ben merci beaucoup en tout cas Johan Petiot d'avoir été avec nous. Nicolas nous appelle de Vernon. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour. Nicolas, vous faites quoi dans la vie ?
Alors moi je suis commercial pour un industriel.
D'accord. Et est-ce que vous vous réjouissez finalement de la croissance moins forte que d'habitude d'Amazon ?
Alors se réjouir, ça c'est un bien grand mot, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça devait arriver à un moment donné. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont profité en fait du commerce et du business en ligne qu'il y a eu pendant la phase Covid.
Ouais.
Tout le monde en a un peu profité, hein. C'est-à-dire que pendant que les gens étaient chez eux, bah, ils se faisaient livrer plein de choses. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un magasin de bricolage, dans une grande enseigne de bricolage. Et on a aussi connu une progression exponentielle, des progressions à deux chiffres qu'on n'avait jamais connues auparavant. Et on s'est dit, de toute façon, à un moment donné, ça va se tasser et ça va forcément à un moment donné couper quoi. Mmh. Et puis c'est ce qui arrive forcément aujourd'hui, c'est-à-dire que le commerce, le business qui sont en ligne ou autre, et ben ça baisse à un moment donné. Mmh. On peut pas retrouver des croissances à deux chiffres.
Et puis c'est sûr que si on a acheté une perceuse, on va pas en acheter trois quoi. Enfin je veux dire voilà, il y a des achats qui vont a priori insuffis quoi. Et, voilà. Et effectivement si ces achats on les a fait pendant le confinement, on les fera pas après. Mais merci beaucoup Nicolas de nous avoir appelé au 32-16. On a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Le ralentissement de la croissance pour Amazon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Martin Bourdin?
Vous êtes assez partagé hein, pour vous c'est une bonne nouvelle à 54%.
Ah quand même les gens se réjouissent quand même.
À 54%.
Ouais, que le géant ait un petit ralentissement.
Mais le géant qui ne paie pas ses impôts en France en plus, donc c'est
genre pas pleurer sur une très faible partie. Dans un instant, peut-être une révolution dans notre quotidien, dans nos vies. L'arrivée des écrans de smartphones incassables. Non. C'est Anthony Morel qui va venir nous parler de tout ça. Si, je vous jure, ça arrive. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h50, vous êtes sur RMC, RMC Story, canal 23, 12h50, c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony Morel, je le disais il y a quelques instants, vous allez nous parler d'une révolution dans nos quotidiens, c'est l'arrivée de l'écran de smartphone incassable.
Et on en a tous bien besoin, parce que comme je dis toujours, les smartphones, c'est comme les tartines de confiture, ça tombe toujours du mauvais côté, du côté de l'écran, et les écrans, ça casse, c'est vrai.
Mais c'est vrai ce que vous dites.
Ah ben oui, évidemment, alors on va avoir effectivement des écrans beaucoup plus solides qui sont en train d'arriver, en tout cas qui sont en cours de développement, vous savez grâce à quoi?
Non.
Grâce aux huîtres et grâce aux moules. Voilà. Alors c'est des oui, c'est grâce au biomimétisme. Le biomimétisme, c'est le fait de s'inspirer des propriétés d'animaux, de végétaux pour innover. Et en fait, c'est des chercheurs canadiens de l'université McGill du Canada. Ils cherchent en tout cas à développer des écrans du futur, des écrans beaucoup plus solides, et ils se sont intéressés à la nacre qu'on trouve dans les huîtres et voilà, dans certains coquillages. Et la nacre, alors je vais pas vous faire un épisode de Thalassa, mais elle a des propriétés très très intéressantes. C'est-à-dire que c'est en fait ça fonctionne comme un mur, c'est une armure en fait pour les mollusques. Et donc en fait, quand on réplique la structure qu'on utilise dans la nacre dans des écrans laminé, et ben on se retrouve avec un écran qui est 2 à 3 fois plus solide que celui que vous avez sur votre smartphone aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en appliquant cette technologie, eh bien on pourrait avoir des écrans quasiment incassables. Voilà, donc ça va arriver d'ici quelques années. C'est en cours de développement.
À quelques
pour l'instant.
Années.
Ah bah oui, mais attendez.
Ah mais je pensais que c'est dans quelques jours.
Ah
hein.
Non.
Quelques années.
Mais oui, quelques années.
Bah d'ici là, on fait quoi?
Bah d'ici là, vous rachetez des téléphones.
Ah oui,
non, il existe.
Protège.
Non mais vous savez, on en voit d'ailleurs pour ceux qui nous regardent en télé, il y a plein de modèles qui existent aujourd'hui de téléphones. Ce qu'on appelle des tough phones, des téléphones renforcés qui fonctionnent très bien.
Mais c'est moche.
Bah, ça dépend lesquels. Il y a des modèles, franchement, il y a des modèles maintenant qui sont quasiment aussi fins que des smartphones classiques. Et notamment, il y a une marque française qui s'appelle CrossCall qui fait des téléphones assez dingues qui sont conçus comme ça. Alors, ils sont plus ou moins durcis, plus ou moins résistants, mais vous avez des modèles qui sont des très bons compromis, qui ressemblent vraiment à des téléphones normaux, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus solides, poussière, eau et choc.
Est-ce qu'ils seront nacrés, ces nouveaux téléphones? Alors, c'est joli, ça, le nacre.
Ah ouais, c'est beau.
Ah bah oui, alors
peut-être
ils seront pas nacrés.
Mais...
Non, oui, alors, vous pouvez le mettre une coquille d'huître comme étui, sinon, si vous aimez
bien. C'est
joli. Ça peut être sympa aussi.
Il y a même des écrans qui, plus tard, donc là, pas dans quelques jours, hein, j'imagine,
pareil,
qui vont se réparer
oui,
tout seul.
Évidemment, ouais, absolument. Des écrans auto-cicatrisants, comme la peau. Bah oui, parce qu'on a toujours le collègue qui nous fait un peu pitié avec son écran tout fissuré, là. Ça arrive.
Ça m'agace.
Bah oui, ça vous agace. En même temps, c'est quand on l'a cassé, on l'a cassé.
Ma fille a ça depuis un an et je comprends pas.
Non, mais c'est vrai, on traîne. Bah oui, parce qu'on s'accommode finalement. On dit, ça fonctionne quand même. Bah non, c'est pas génial. Et donc là, en fait, c'est vrai? Ah bah oui, Pierre, bah voilà.
Et oui.
Alors, soit on le fait réparer, ou alors, ça peut arriver, ou alors on pourra, et c'est des chercheurs de l'université de Tokyo qui ont mis au point un verre particulier qui, en le frottant, va en fait se résorber, si vous voulez, comme du verre qui cicatrise, si vous voulez. Normalement, le verre pour
comme une tache, vous frottez, elle s'en va.
C'est un peu ça, c'est un peu ça. Normalement, des pièces de verre, quand vous voulez les coller l'une à l'autre, il faut une chaleur extrême. Et là, en fait, ils ont mis au point un verre spécial qui, simplement avec la chaleur de votre doigt, eh bien, va se recoller d'une certaine manière. Donc là encore, petite révolution potentielle pour nos smartphones d'ici quelques années. Encore une fois, oui, c'est dans les laboratoires.
Vous savez de quoi je rêve, moi?
Allez-y.
D'un airbag pour iPhone.
Eh ben
genre, vous savez rien, j'ai mon iPhone normal, mais je le fais tomber, bim, airbag.
Ça, c'est génial, c'est une invention.
Ça existe?
Ça existe, mais c'est pas encore sur le marché.
Oui, bien sûr.
Ah non, mais attendez, moi je vous parle du monde de demain, c'est pour ça.
Là, c'est surtout du monde d'après-demain.
D'après-demain, parfois. Non, mais c'est extraordinaire. C'est, en fait, le principe, c'est une sorte de parachute pour smartphone, c'est-à-dire un étui pour téléphone avec 4 petits embouts à chaque angle du téléphone. Quand vous laissez tomber l'appareil comprend qu'il est en train de tomber parce qu'il a des capteurs capteurs de mouvement, et hop, il va se déployer comme un airbag, et ces petits embouts vont venir amortir le choc, amortir la chute, le téléphone ne se casse pas.
Impossible. C'est génial, ça.
Ça, c'est une super bonne idée. C'est un étudiant allemand qui a développé ça, c'était il y a 2 ans, je crois, et depuis, on attend qu'il soit industrialisé, voilà.
On attend,
il faut des financements, c'est compliqué. Bah,
ça doit être cher, quand même.
On a un prototype comme ça, derrière, il faut le développer, ça prend du temps, hein, c'est pas évident. Non, mais vraiment, et c'est pour ça que, oui, forcément, des fois, je vous parle de choses qui vont arriver peut-être d'ici quelques années. Ça prend un petit peu de temps.
Mais oui, le progrès, on n'arrête pas le progrès, évidemment. Tiens, on parle de quoi lundi ?
À lundi, on va parler de meubles.
Ah bon,
alors, je vais vous parler. Je ne sais pas si je peux le spoiler maintenant, mais.
Mais si.
Ah bon, ok. Bon. Alors, je vais vous parler de meubles qui se séparent en cas de divorce. Hein ? Des meubles qui se découpent. qui ont été conçus.
Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les enfants ?
Bah alors, écoutez, on verra. Ça, je vais m'intéresser à ça.
C'est le monde d'après-demain pour le coup. Bah,
non, mais vraiment, c'est un vrai truc. Ils ont été conçus pour ça. Ils sont conçus pour en cas de divorce.
On part avec une moitié de commode.
Il y en a un qui part avec la penderie et l'autre avec les tiroirs. C'est très sympa. Écoutez, j'ai hâte d'être à lundi. Vraiment très belle chronique. Merci beaucoup. Anthony Morel, tous les jours, 12h50, dans Estelle Midi. On n'arrête pas. Le progrès. Vous faites quoi le 1er mai ? Vous allez manifester ou pas ?
Non, pas du tout, non.
Cachez votre joie.
Non,
des gens vont aller manifester, sachez-le. Oui. Anthony Morel, ce sera les premières manifs du deuxième quinquennat. Macron, il y sera question, bien sûr, des retraites. Le président doit-il déjà envisager de faire marche arrière ou de ne rien faire, justement, sur les retraites ? Donnez-nous votre avis au 32-16. A tout de suite sur RMC Story.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.